Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Royan sur 93.fm ou sur internet radioroyan.fr. Nous sommes à Vassieux-en-Vercors au musée départemental de la Résistance et nous sommes dimanche 14 août 2016. C'est la deuxième journée Résistance organisée par le musée cet été. Et c'est une émission spéciale qui démarre à l'instant, une émission en public, avec pour thématique l'histoire des radios libres, avec en toile de fond ce diptyque Radio Résistance, deux mots qui résonnent en pair, dans les airs et sur terre. Une émission initialement prévue en direct, mais pour des raisons techniques, nous avons finalement opté pour une diffusion différée sur nos ondes d'ici 48 heures. Donc Radio Résistance, c'est le sujet de notre dossier thématique de l'été, mais c'est bien sûr et surtout donc pour notre hôte, le sujet de la nouvelle exposition temporaire donc à laquelle vous avez pu visiter le Vercors, les ondes de la liberté, exposition consacrée aux opérateurs radio clandestins sur le Vercors et pendant la période de la Résistance. Alors avant de vous présenter nos invités et de leur laisser le micro, je souhaite, au nom de toute l'équipe de Radio Royan, remercier chaleureusement Pierre-Louis Filet, donc le directeur du musée, pour avoir imaginé ce partenariat. Un coup de pouce ou coup de chance, en tout cas une aubaine particulière pour Radio Royan dans cette perspective de développement de la radio sur le Vercors Sud. Merci donc Pierre-Louis. Merci également à toute ton équipe, on va prendre le temps de les citer, Céline, Carole et Martha, donc pour leur accueil et pour leur disponibilité. Sans oublier Didier Clarençon et les membres du Radio Club Amateur de Tulin, donc pour nous avoir ouvert les portes du monde mystérieux de la télégraphie, du SOE ou encore de la cryptographie. Notez d'ailleurs, chers auditeurs de Radio Royan, que vous pouvez dès à présent retrouver l'ensemble des reportages réalisés sur ce sujet dans le dossier thématique Radio Résistance et sur notre site internet radioroyan.fr. Pour l'heure, revenons donc autour de la table. Il est temps de vous présenter nos invités. Donc, pour vous conter la fabuleuse histoire des radios libres, nous avons déniché un pirate, un vrai de vrai, Patrick Gervais, donc fondateur de Radio Calade, et un briscard, au sens premier du terme, c'est-à-dire un homme dont l'expérience fait la sagesse, et comme vous pouvez le constater, il n'est pas vieux. Ce n'est pas forcément un vieux briscard. Donc je vous présente François Brunswick, fondateur de Radio Royan. Et puis également autour de cette table, invisible, nous avons également Anne Desplanques, donc animatrice pour Radio Royan. Bonsoir à vous et merci de votre présence.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Donc la rencontre qui va suivre, elle a pour but de croiser les regards entre deux réalités, avant et après la loi de 1981, entre deux environnements périurbains et rural, donc j'en profite pour préciser que Radio Calade est la radio qui émet depuis Villefranche-sur-Saône et qui sème dans tout le Val-de-Saône. L'idée, c'est également de vous offrir des perspectives de suite ou de poursuite de l'exposition qui s'achève sur les radios offshore et sur la création de l'ERTF. Et l'idée, c'est surtout, je crois que c'est vraiment le cœur de cette conférence, de comprendre en quoi les radios libres sont empreintes de l'imaginaire des radios clandestines pendant cette période donc de la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc l'objet de cette conférence. Avant de démarrer, peut-être quelques consignes. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les garder dans un coin de votre tête. Un temps sera dédié aux échanges avec le public. On s'est donné à peu près les 20 dernières minutes de la conférence. Anne et moi pourrons éventuellement vous interrompre pour avoir quelques précisions. Et si d'autres questions restaient en suspens, nous nous rendrons disponibles à partir de 19h, donc pendant le petit temps qui est dédié à la restauration, avec un repas tiré du sac, sous réserve bien sûr de ne pas parler la bouche pleine. Voilà. Je laisse donc la parole à Anne, donc qui a une petite introduction, donc vous concernant, messieurs, une petite introduction à vous offrir.
Merci Rachel. Donc à ma gauche directe, Patrick Gervais, né le 11 janvier 1950 d'un père ouvrier et d'une mère couturière. Son enfance est partagée entre l'habitation familiale, dans un petit immeuble de Lyon, mais avec une cour commune, et la ferme du grand-père maternel dans la Drôme, métayer viticole. Son adolescence, il le passe dans le quartier de la Duchère à Lyon, au 14e étage de l'immeuble, et là, il y rencontre la rue. À 18 ans, dans la petite maison familiale dans le Beaujolais, il rencontre la nature. Il passe un bac technique, un bac spécial en un an informatique, ainsi qu'un DUT d'informatique. Les lycées et la fac, eh bien, ça lui permet de rencontrer la politique, les engagements et les actions qui en découlent. Et de ces actions, eh bien, c'est un style libertaire, antimilitariste, écologiste et européen. Il est l'un des fondateurs du mouvement écologiste Rhône-Alpes, le MERA, au début des années 70. Également l'un des organisateurs des manifestations contre le nucléaire à Malville ou à Cruas. Et également des manifestations contre l'armée sur le plateau du Larzac. Il est l'un des fondateurs de l'APERA, l'agence de presse écologique Rhône-Alpes, c'est-à-dire l'ancêtre du journal Silence, le journal écologique Silence. L'un des organisateurs aussi des rencontres européennes pour la paix qui l'a mené en Italie et à la rencontre de la Radio Libre du Parti Radical de Milan, le parti de Marco Pannella. Au retour, eh bien, il crée l'une des premières radios pirates de France, Radio Polyphème, qui émettra 2 ans sur Lyon avant de s'exporter dans le Beaujolais pour émettre en pirate. Et là, on est entre 76 et 81. Ensuite, les radios deviennent libres. Et donc Radio Calade poursuit son chemin et lui, eh bien, ses luttes. Si vous avez visité l'exposition, eh bien, vous avez peut-être entendu parler de la goniométrie. Eh bien, la goniométrie, pour Patrick, c'est quelque chose qu'il a connu. Ce n'est pas qu'un concept de la Seconde Guerre. Tu nous en reparleras, je pense, pendant la conférence. Mais à un moment, les RG se sont intéressés à toi de près, notamment les voitures gonio.
Très près.
On y reviendra. Et puis à ma gauche, un peu plus lointaine, François Brunswick. Alors François, lui, eh bien, il est né à Paris. J'ai de nombreuses feuilles pour François. Donc François est né le 3 juin 1953 à Paris. Il a fait des études en lettres, en philosophie et surtout en théâtre. Et il devient rapidement metteur en scène et comédien. En septembre 1975, il s'installe à Grenoble et crée la Compagnie de l'Aiguille. Et puis à Pont-en-Royans, donc en bas du Vercors, à l'été 1976, il s'y installe toujours avec la Compagnie de l'Aiguille. Son parcours professionnel, ça se jalonne entre de l'animation et de la création théâtrale pour les scolaires, mais également pour le tout public. La formation continue. L'organise dans des organismes d'insertion ou à l'université, l'ont beaucoup occupé aussi à une époque. Et puis enfin, un troisième grand axe de tout son parcours, l'administration culturelle et la programmation notamment culturelle en milieu rural, à partir de son arrivée dans le Royaume. En 1979, se crée l'ACCR, l'Association de coordination culturelle du Royaume. Alors François en fait partie. Et puis en 1987, Radio Royan, qui fêtera donc ses 30 ans l'année prochaine, mais tu y reviendras plus longuement dans la conférence. Et en tout cas, pour la CCR, eh bien, François est tantôt compagnon, salarié, parfois administrateur. Même si depuis 2013, il a arrêté toutes ses hostilités, il est toujours administrateur de la CCR, comme de bien d'autres structures culturelles et de développement local. François, en tout cas, assure les directs dans toutes les conditions, même dans les lieux les plus improbables. Une panne de relais antenne entre le studio à Saint-Jean-Royan et l'émetteur a lieu. Le pont hertien est coupé. Eh bien, ce n'est pas grave. Il monte en voiture avec notamment Gaël à la technique jusqu'au col du Gaudissart sur le plateau. Se branche directement sur l'émetteur. On est dans les années 93-94. Peut-être que tu en reparleras. Le direct se fait là-haut, alors sur une table de camping. Un parasol au bord de la route, à la grande stupéfaction des automobilistes. Voilà pour un premier portrait succinct de nos deux invités. Et sans plus tarder, ben, on vous laisse la parole.
Prenons la chronologie, puisque
voilà.
Et puis moi je suis un enfant à côté de toi en matière de radio.
On va dire, oui. Voilà, alors on va rappeler un petit peu le contexte, ce qui m'a amené à rentrer dans le monde des radios. Et le contexte, donc, moi je suis né 5 ans après la guerre, quoi, après la fin de la guerre. Mes parents, ils ont pris les routes de l'Exode. Et donc, dans la ferme familiale à côté de Bolène, à Mondragon, évidemment, les repas de famille, on parlait de la guerre, on parlait des radios, on parlait de tout ça. Et moi, ça m'a passionné pendant des années. Et bon, ben voilà, j'ai pris ça dans ma mémoire. Et en rentrant de vacances sur Lyon, quand j'ai commencé à faire des études un petit peu plus, le lycée, on va dire, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient politiquement plus mûrs que moi et qui m'ont formé, qui m'ont informé, etc., et qui ont commencé à mettre dans ma tête des questions sur l'état de la société. Alors il faut voir, hein, on est avant 68. Et un grand journaliste avait dit « la France s'ennuie », et puis 68, ça leur a pété au visage, quoi. Donc on s'ennuyait pas tant que ça, donc ça brassait. Il y avait un couvercle, une chape de plomb qui était mis sur les envies, les passions et la richesse de la société, et surtout de sa jeunesse. Cette chape de plomb, il fallait qu'elle saute, elle a sauté en 68. Et donc on s'est trouvé propulsé dans la militance, telle que ça a été cité tout à l'heure, hein, l'écologie, parce que c'était le début de la lutte, des luttes contre le nucléaire, c'était le début des journaux comme La Gueule Ouverte, etc., avec des gens comme Rezer et tout, qui commençaient à se poser des questions sur notre façon de consommer, notre façon de gaspiller, et sur les conséquences, déjà à l'époque, et maintenant ça se confirme, que cela pouvait avoir sur l'état de la planète. Donc voilà, on se fait son petit 68, son gros 68 même, et puis c'est la faculté, alors là ça s'enchaîne, toutes les actions comme ça a été cité, pour la paix, contre la militarisation, pour l'écologie, etc., et puis pour la rencontre avec l'autre, pour l'intelligence, quoi, on va dire. Il faut voir qu'à l'époque, les choses les plus rebelles qu'il y avait à la radio française, parce que le monopole de l'État qui a été mis en place après la guerre, il était ferme, hein. Il y avait des ministres de l'information qui donnaient le contenu des journaux télévisés aux journalistes des chaînes de l'État. Donc je vous raconte pas la liberté. Les choses les plus intéressantes qu'il y avait, c'était éventuellement ce qui venait des radios périphériques, hein, donc parce que comme il y avait un monopole d'État, c'était installé à la frontière de la France, Radio Télé Luxembourg, Europe 1, Radio Monte Carlo, des gens qui avaient comme objectif que de faire de la pub et de capter de l'auditeur pour la pub. Donc le plus rebelle, c'était Salut les copains, quoi. Adamo, Sheila, voilà. Donc c'était passionnant, quoi. Hein. Moi, j'ai rien contre Sheila, mais enfin bon, il y a un moment, toute la journée, ça fait beaucoup, quoi. Et surtout quand, à ce moment, j'habitais à la Duchère. Et comme on était des jeunes qui s'ennuyaient, les gens qui géraient ce quartier nous avaient fourni un petit local. Et là, on a joué et écouté de la musique qui venait d'ailleurs, quoi. Hein. Et cette musique, on savait qu'elle était émise une fois encore par les Anglais en direction de la France, par Radio Caroline ou des bateaux comme ça. Ces Anglais, décidément, ils ont envie de nous faire écouter du son, quoi. Hein. Juste un petit peu avant, ma première résistance avec la radio, ça a été de voler, je le dis. Hein. J'ai volé un transistor. Et ce transistor, il m'a accompagné dans mon lit pendant des années. Alors j'écoutais José Arthur, des trucs, qui interviewait des mecs avec un ton un petit peu plus libre quand même. Et puis j'écoutais La Fille de la Météo Marine, qui m'a fait rêver de voyage, quoi. Hein. Beaufort, Ouessant, l'archipel des Açores, Vent de Force 4, moi je planais. Hein. Donc c'était passionnant. Et donc ça a encore augmenté ma passion pour ce média qui était la radio. La télé, j'ai jamais aimé. Mon père avait eu la chance de pouvoir avoir une petite télé, et il la mettait dans l'immeuble où on habitait, et là les gens qui n'avaient pas de télé, ils venaient tous le soir regarder la télé, ça me passionnait pas, et puis des fois on écoutait la radio, et quand il écoutait la radio, je voyais bien qu'il pouvait se passer des choses, parce que c'est un ouvrier, hein. Et malgré que les informations soient contrôlées, elle mettait mon père en colère, quoi. Donc, et je l'entendais rouspéter le matin en préparant sa gamelle. Et je me disais, ah, il doit y avoir quand même des choses. Enfin bon, voilà. On poursuit, création du mouvement écologique Rhône-Alpes. C'est un mouvement qui était structuré sur toute la région Rhône-Alpes, avec des têtes de, un peu comme la résistance, hein, des têtes de pont dans chaque département, des sous-groupes par grande ville et puis des petites sous-groupes par quartier. Donc, et là, il y en avait partout, la Drôme, la Savoie, l'Isère, l'Ain, etc. ce qui nous a beaucoup aidé dans les radios pirates, parce qu'après on a utilisé cette organisation pour diffuser en étant un peu protégé, quoi. Donc voilà, les grandes manifestations, tout ça, la lutte pour, je vais pas faire trop long, la lutte pour la paix en Europe, et puis dans cette lutte pour la paix en Europe, bon, on s'est déplacé, hein, parce que comme on a été en Angleterre, en Pologne, et en Italie. Et là, en Italie, à l'occasion d'un jumelage entre un groupe du Beaujolais et du mouvement écologique Rhône-Alpes, et puis le parti radical de Marco Pannella, on est reçu à Milan. Bon, voilà. Alors, les Milanais parlaient tous le français, on parlait pas l'italien. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé tout ça. Et donc, on est resté 3 jours. Et puis, en promenant dans les couloirs, ils avaient un grand bâtiment. En promenant dans les couloirs, je tombe sur une porte avec une petite imposte, une vitre. Et puis en haut, je vois écrit en rouge « On Air ». On Air, ça me parlait, je savais ce que ça voulait dire quand même. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai regardé et j'ai vu des chevelus quoi qui parlaient autour d'un micro en bougeant les bras, enfin tout ça. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Alors, voilà, ils nous ont fait rentrer puis ils nous ont interviewés. J'ai dit « Mais vous avez le droit ?» Et oui, oui, ça fait des années qu'en Italie, il y a des radios qui sont autorisées. Sous certaines conditions, bien entendu. On dit, mais comment vous faites? Alors, ils nous ont expliqué. Donc, on est revenu de Milan avec, dans les valises, dans les sacs à dos, des composants électroniques nécessaires pour constituer des émetteurs. Comme on luttait contre le nucléaire, on ne luttait pas contre le nucléaire comme ça, sans rien. On avait avec nous des chercheurs du CNRS qui étaient contre et qui avaient les arguments pour, le docteur Brière, le professeur Alain Partinsky, Philippe Le Breton, qui est bien connu, enfin bon... Et on a été les voir, donc ils étaient à la Doua, à Villeurbanne, dans le centre du CNRS. On a été les voir, on leur a dit, voilà, on a des pièces. Est-ce que vous pouvez nous fabriquer des émetteurs? Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Et donc, ils nous ont fabriqué 5 émetteurs. Donc, les 5 premiers émetteurs pirates de la région Rhône-Alpes ont été fabriqués par l'État, par le CNRS, c'est pour dire, quoi. Ces 5 émetteurs, on les a dispatchés, donc, sur ce réseau que l'on avait. Il y en a un qui est parti en Savoie, un qui est parti en Isère, un dans l'Ain, un à Bron et un dans le Beaujolais. Les groupes se sont organisés, se débrouillaient. Hein, voilà, les radios pirates étaient nés. Je vous raconterai plus tard comment ça s'est passé jusqu'en 81. Voilà.
Bon, moi, ça va être beaucoup plus bref parce que moi, je rejoins la radio en fait qu'après. Sauf ce qu'il y a de le tronc commun, c'est sûrement le militantisme. Moi, le militantisme d'utiliser pour ma part, hein, puisque c'était ma formation, le théâtre, les mots et les histoires qu'on bâtit autour des mots pour des luttes. J'ai beaucoup travaillé sur du théâtre de rue pour des syndicats. Pour du théâtre comme ça, d'intervention hein, dans des manifestations, dans des grèves, etc., quand j'étais étudiant en théâtre. J'ai beaucoup travaillé sur du théâtre de quartier au Théâtre des Amandiers à Nanterre quand j'y étais. Tout ça, j'avais 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, puisqu'après, je suis venu par ici. Mais disons que le théâtre, ce qui m'intéressait, c'était le social et de croire... Alors c'était aussi une période où il y avait un référent dans le théâtre de beaucoup de créations qui n'étaient pas si anciennes que ça finalement, dont on n'entend plus guère parler aujourd'hui, mais Brecht, voilà, il y avait des, pour ne prendre que lui, il y avait aussi un travail de mise sur les planches de pièces qui disaient vraiment des choses. On peut rattacher ça aussi à toute la décentralisation. Enfin bref, croire que les mots sont importants, d'une part, ça n'a pas changé, et que ça peut changer des choses. Donc c'est ça qui m'a amené, par hasard, enfin, oui, je raconterai par hasard à la radio, en fait. Et puis l'autre chose quand même, et là je rejoins aussi... Patrick, c'est que moi, j'ai jamais eu la télévision. Voilà, j'étais dans une famille où la télévision n'était pas. Et donc, je n'ai grandi qu'effectivement aussi qu'avec la radio. Vraiment. Et c'était déjà un truc qui me paraissait formidable pas pour... j'ai écouté aussi un peu José Arthur et tout ça, mais c'est moi, ce qui me fascinait, je vous le dis, c'était le dimanche après-midi, les journées de championnat de France de football à la radio, quoi. J'ai passé des après-midi parce que c'était pas encore complètement truqué comme aujourd'hui. Tous les matchs avaient lieu ensemble. C'était pas question qu'il y ait un match, sauf incident extraordinaire, qui soit décalé avec ceux qui jouent trois jours après les autres, qui connaissent leur... Enfin, voilà. Donc c'était... Et puis j'aimais bien le football, voilà. Donc c'est ça, c'est les souvenirs comme ça de postes collés à l'oreille, effectivement, pendant des heures. Mais après, c'est l'expérience. Mais je crois aussi que c'était le... Je dis, j'aimais le football, oui. Mais j'aimais surtout la manière dont ces voix de gens qu'on ne connaissait pas... Hein. Aujourd'hui, on sait un peu par la télévision qui fait quoi, machin. C'était des voix venues d'ailleurs et qui croyaient, quoi. Enfin, je veux dire, qui voilà, les envolées, les trucs, les gars qui s'interrompaient d'un stade à l'autre. Enfin, c'était un monde vraiment formidable et qui m'a plutôt renforcé dans le fait que je crois que la voix est quelque chose, des fois, qu'on oublie aujourd'hui. Hein, et là, on rejoindra le militantisme aujourd'hui de continuer la radio. Mais c'est ça, en fait, qui a fait rejoindre la radio. Je vais enchaîner comme ça tout de suite, parce que tant pis, c'est juste pour dire que la rencontre avec la radio, ça s'est fait ici, sur le Vercors, et complètement accidentellement, parce que même si j'étais déjà implanté depuis un moment avec le théâtre, hein, sur le Vercors et sur le parc du Vercors, avec des programmes, avec les scolaires par exemple, des programmes suivis de création, etc., c'est venu d'un projet Parc du Vercors, d'une radio, Vercors, radio, Parc du Vercors, qui est née tout de suite dès que la loi, enfin pour le projet, hein, dès que la loi a été instaurée, le projet a commencé à se monter et ça a été un truc incroyable et un fiasco total. Ça a duré très peu de temps, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est comme ça après que Radio Royan est né. Hein. Mais on va revenir aux pirates, non ? On reprend la...
Voilà, je sais pas, ouais. Moi, hein. Je suis d'accord sur ce que tu as dit par rapport à l'image. Moi, je trouve qu'une des pires horreurs qui se passe actuellement, c'est que les radios comme France Inter et d'autres, maintenant, ils filment les matinales ou les émissions, etc. C'est une aberration. L'image, elle tue l'intelligence. C'est-à-dire, quand on est capté par l'image, on regarde le gars, il a un gros pif, il se gratte le nez, il lève les bras au ciel, etc. On n'est plus dans son discours. Et ça, c'est une aberration. Pour les gens qui aiment la radio, de la radio filmée, c'est la pire des choses qui puissent exister. Enfin bon. Alors donc, les radios pirates étaient nées, Radio Calade, les radios pirates qui existaient à l'époque, quand Radio Calade, qui n'était pas tout à fait Calade au début, qui était Polyphème. Polyphème, c'est le nom du cyclope dans l'Iliade et l'Odyssée. Il y avait 3-4 radios en France, on est la quatrième, je crois, radio française... Radio Polyphème, il y avait Radio Fessenheim, Radio Verte Fessenheim, qui se battait déjà contre la centrale nucléaire de Fessenheim et qui a accompagné les luttes contre Malville et Cruas en émettant des émissions spécifiques. Il y avait Radio Lorraine Cœur d'Acier. Déjà, la métallurgie était en catastrophe, en déshérence. Et donc, les syndicalistes avaient monté des radios pirates, quoi. Hein. Et puis, il y en avait une ou deux autres dont j'ai oublié le nom. Et puis plus tard, il y a le Parti Socialiste qui a créé une radio qui s'appelait, juste avant que Mitterrand soit élu, qui s'appelait Radio Riposte. Et c'est du reste à l'occasion de son passage sur une de ses antennes qu'il a annoncé s'il était élu, il allait libérer les ondes. Donc voilà, Radio Calade existe. Les autres radios, elles sont parties faire leur route. Radio Calade ou Polyphème, hein, je dirais toujours Calade. Et donc, il fallait émettre. Alors, il fallait émettre, et on avait appris, hein, grâce à la résistance, grâce à de nombreux films, comme Le Père Tranquille avec Noël, où on le voyait, ce petit papy qui avait l'air d'être presque un collabo, et puis qui, en fait, était un grand chef de réseau, et qui, chez lui, il mettait son appareil, et bip, 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 comme nous ont montré les... comme on a pu voir ce matin, qu'il fallait se protéger, qu'il fallait s'organiser. Donc on avait créé trois équipes. Il y avait une équipe qui était une équipe de communication, c'est-à-dire qui faisait la promo, hein, distribution de tracts comme la Résistance, les mecs qui collaient les affiches la nuit. Nous, on a fait pareil. Hein, on tirait des petits autocollants sur les ordinateurs. Et il y en avait qui étaient chargés de les coller sur les voitures de la gendarmerie, du reste, pour qu'ils sachent bien qu'on allait émettre et puis que ça se sache, parce que c'est les meilleurs réseaux. Hein. Et puis voilà, donc des tracts, des réseaux, on envoyait ça à tous nos réseaux, etc. Il y avait une deuxième équipe qui était une équipe de production, parce qu'il a jamais été interdit par la loi de prendre un lecteur de cassette ou un... À l'époque, parce qu'il faut voir comment on travaillait, hein. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'internet, il n'y avait rien, hein. Donc c'était vraiment la zone. Donc il fallait tout faire à la main. Quand on faisait des coupés-collés pour monter du son, c'était dans le vrai sens du coupé-collé, ciseaux, colle, et puis voilà. Hein. Donc on faisait des fois, on avait plus de choses par terre qu'on avait jetées que sur le bobineau qu'on allait diffuser. Donc une équipe de production, donc qui elle travaillait au grand jour, c'est-à-dire allait sur les lieux où il se passait des choses, une fermeture d'école, des syndicalistes qui voulaient pas qu'on ferme leur usine, des gens qui parlaient architecture, enfin etc. Ils allaient prendre du son et puis voilà. Bah, après il y avait des monteurs et puis une équipe de diffusion dont je faisais partie et qui au début émettait, alors c'est marrant parce que j'ai retrouvé exactement ça, hein, moi. J'ai transporté les mêmes sacs à dos avec les mêmes batteries de bagnole, avec les mêmes câbles, avec la même antenne parapluie, les qu'on vissait, etc. Pour la tenir, on la mettait dans un étau sur les toits. Là, j'ai une grand-mère qui me regardait pendant une heure et demie un jour en disant « mais il la règle son antenne télé ». Enfin bon, je ne sais pas ce qu'elle a dû penser. Donc il fallait en monter dans les greniers, etc. Et tout. Et puis on s'est vite aperçu qu'ils étaient derrière nous parce qu'on a des copains qui s'étaient fait saisir leur matériel. C'était Radio Léon à Lyon qui se sont fait saisir leur matériel, arrêter. Ils ont fait de la préventive et ils ont eu des peines d'amende. Bon, ils n'ont pas fait de prison ferme. Et le matériel, ça coûtait un bras parce qu'on payait tout nous. Hein. Et donc, on a dit, bon, on peut pas faire du fixe parce que le fixe, on savait, on connaissait la guionneau, la triangularisation, on connaissait tout ça. On a dit, il faut qu'on bouge, quoi. Donc, on a équipé un Ford Transit, une camionnette, quoi, en studio mobile. Donc, on a acheté un Ford Transit d'occasion. On l'a équipé en studio mobile, donc il y avait tout. Il y avait les tables, les chaises, les micros, enfin tout ce qu'il fallait. C'était câblé sur la batterie. Il y avait une grande... À l'époque, on n'avait plus les antennes triangulaires parapluie. C'était un grand fil très long du reste, une antenne métallique. Et donc, on émettait en se déplaçant. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des gens dans la camionnette qui... Et puis, on roulait, donc ce qui fait qu'on les piégeait. Ils pouvaient pas nous choper, quoi. En fait, comme on connaissait beaucoup de monde, on a réussi à avoir des... Je les ai pas amenés, j'aurais dû... Des fiches des renseignements généraux internes qui, quand on émettait, ils étaient derrière et c'est marqué. Et ils disent, on suppose qu'ils étaient dans le quartier de Belleroche, etc. Et tout. Mais le fait de se déplacer, et ça, c'est un apport de la résistance, ça fait qu'on a pu passer à travers les mailles du filet. Donc, c'était... Donc voilà, alors donc ces trois équipes qui produisaient, alors on a et comme on avait notre camion, c'était plus simple, ce qui fait qu'on a pu accompagner sur des sites des manifestations. Par exemple, on a été émettre depuis le col de la Madeleine parce qu'ils voulaient faire un tunnel ou je sais pas quelle horreur là-bas dans le coin. Enfin, on se déplaçait en fait sur Rhône-Alpes pour aller soutenir des événements et toujours sous le nom de Radio Calade, c'est-à-dire qu'on montrait qu'on pouvait faire de la radio itinérante. Et ça, ils aimaient pas. Hein, donc, ils aimaient pas du tout. Qu'on soit dans un endroit fixe et tout, mais qu'on se déplace, là, ils aimaient vraiment pas. Donc, ils nous ont couru derrière, mais c'est vrai, on est passé à travers les fils du filet. Donc, voilà, Radio Pirate jusqu'en 1981. François Mitterrand, dans ses 100 promesses, il en a tenu une. C'est celle-là. 1981, donc y arrive la loi. Nous, on plonge dedans, bien entendu. On crée une association 1901, comme c'était réclamé. Et puis dépose les statuts. Et puis on cherche un local, voilà. Et à partir de ce moment-là, les radios libres existaient. Et après, je vous préciserai ce qu'elles sont devenues.